Cette année, GMF est élu numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts pour toute souscription de contrat auto jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Il était à fond, et c'est l'autre grande nouvelle de ce week-end. Benjamin connaît par cœur les paroles de la boulette de Diams.
Moi, je confirme. Hein.
Moi qui le cantonnais à chanteur de jazz de Sardou, non, il a aussi des goûts de jeune. Benjamin serait donc le chaînon manquant entre les boomers et la Gen Z. Le voici, le vrai scoop de cette matinée. J'y reviendrai d'ailleurs en détail dans le livre de Diams à Sardou, La fâche cachée de Benji, dont je signe la préface et je compte sur toi pour m'inviter à 7h50 pour en parler. Hein.
Merci Bertrand Chameroy. Vous écoutez la grande matinale d'Inter, il est 8h. Voici le journal d'Hélène Philly, bonjour.
Bonjour à tous. Tout reprendre, les 70 000 plaintes d'enfants victimes au lendemain de la marche blanche en hommage à la jeune Liana. Le garde des Sceaux convoque ce matin l'ensemble des procureurs généraux de France et plusieurs collectifs appellent à des rassemblements ce soir devant les tribunaux pour réclamer une loi globale contre les violences sexuelles.
La société évolue-t-elle plus vite que les institutions, justice, police, gendarmerie? Comment protéger les enfants? On en parle à 8h20 avec l'ancien président de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le juge Édouard Durand sera l'invité du grand entretien. Vos questions et vos réactions sont les bienvenues au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.
La une ce matin, c'est aussi le Moyen-Orient, un ciel zébré de frappes entre l'Iran et Israël. Les hostilités reprennent après 2 mois de cessez-le-feu. Téhéran affiche son soutien au Hezbollah ciblé au Liban. Nous sommes à tir dans quelques instants. La transparence salariale attendra, faute d'avoir transposé à temps la directive européenne. Le calendrier reste très flou. Et puis, ces supporters qui cassent leur PEL pour suivre les Bleus au Mondial de foot en Amérique du Nord.
France Inter.
De nouvelles plaintes devraient être déposées contre le principal suspect de la mort de Liana. Le ministre de l'Intérieur le faisait savoir hier soir, alors que le drame saisit la France entière. Hier, dans le Gers, le maire de la commune de Florence pointait une défaillance sociétale dans la protection des enfants, la justice asphyxiée, à laquelle répond incompréhension et désormais colère devant tous les tribunaux ce soir et toujours dans le Gers, devant le collège de la jeune Liana. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
C'est là que vous vous trouvez ce matin en direct. Les collégiens, la commune entière, Erwan, peine à se relever.
Oui, effectivement, les élèves ce matin entrent dans leur collège dans une allée de fleurs blanches, de bougies, de peluches et de portraits de Liana déposés hier par des centaines de participants à la marche blanche. Et ce matin, eh bien, l'émotion, le choc reste très fort, palpable même chez certains élèves, chez cet adolescent par exemple en sixième, comme l'était Liana.
Ils ont dit si j'avais besoin, il faut parler aux surveillants, au psychologue dans le collège. Aussi, des fois, ma mère me dit d'essayer de ne pas en parler avec les enfants, de plus en parler avec les adultes.
Et justement, la cellule psychologique ouverte dans l'établissement va le rester le temps qu'il faudra. Une cellule d'écoute sera aussi disponible sous peu sur la commune pour les habitants, car le traumatisme existe, explique Gwenola, la vingtaine, interrogée hier après la marche blanche.
Il y a un retour au calme, mais depuis qu'il y a ça, en fait, nous, en tant que femmes, on n'est pas à l'abri, en fait. Florence, qui est quand même une ville assez calme, on est à l'abri de nulle part, en fait.
Vous pensez pas que ça finira par passer, ce sentiment?
Honnêtement, non. Non, parce que, en fait, des fous, il y en a partout.
Et Lauriane, elle, ne pourra être soulagée que lorsque le suspect aura avoué, dit-elle.
Qu'ils disent qui l'a fait et pourquoi, pour les premières victimes et pour la dernière. Tant qu'il restera muet, on ne pourra pas, pour les parents, faire le deuil et même pour tout un département, savoir le pourquoi du comment.
On est loin, très loin, de pouvoir tourner la page, nous ont assuré d'autres Florentins.
Erwan Chassin devant le collège Hubert Reeves de Florence avec Gilles Gallinaro. Une enquête dira s'il y a eu et quels ont été les dysfonctionnements dans la prise en compte des antécédents judiciaires de celui qui fait figure de principal suspect dans la mort de Liana. Mais la question aujourd'hui est plus large. Comment être à la hauteur du séisme des violences sexuelles? Oui, le budget de la justice augmente, mais les plaintes ont aussi explosé, le manque de moyens criant. Alors quand Gérald Darmanin réclame de tout remettre à plat, les 70 000 plaintes qui concernent les enfants d'ici au 14 juillet prochain, le ministre de la Justice convoque ce matin l'ensemble des procureurs généraux au ministère, un certain nombre de magistrats vit mal cette mise en cause collective. Rives, Sarah Guibaudot.
On ne peut qu'être secoué par cette affaire, réagit Marie-Suzanne Lequeo, procureure générale de Paris, qui veut tout remettre à plat et s'inquiète de savoir s'il y a des plaintes en souffrance. On connaît l'état des stocks, répond un procureur. Les procédures avec des victimes mineures ont été multipliées par 2,5 en 10 ans. Bien sûr qu'elles sont traitées avant les cambriolages, poursuit-il. Mais par exemple, les enquêtes criminelles, pourtant numérisées, sont imprimées pour être transmises au juge d'instruction. Avant d'être renumérisées, ça fait 10 ans qu'on le dit. Est-ce que les plaintes précédentes auraient dû alerter ? C'est trop facile de refaire l'histoire, s'agace notre procureur. Il faut déjà qu'elles soient enregistrées dans le logiciel Cassiopée. Cela peut prendre des mois et les magistrats sont plus attentifs aux condamnations qu'aux classements sans suite. On saura vite s'il y a eu des dysfonctionnements. Mais attention à ne pas remettre en cause l'institution tout entière, souligne un procureur général. Ce matin, certains vont remettre sur la table la question des moyens. Les procureurs ne cessent d'alerter sur le manque de policiers et gendarmes pour enquêter.
Et c'est bien pour réclamer un cadre global, une loi dite intégrale de la prévention à la justice en passant par les moyens d'enquête qu'un certain nombre d'associations appellent à la mobilisation ce soir, 19h devant les tribunaux de France. 150 rassemblements prévus de Poitiers à Valence en passant par Lille, Quimper ou encore Melun.
8h06 sur Inter, le cessez-le-feu a volé en éclats au Moyen-Orient.
Nuit de frappe réciproque entre l'Iran et Israël. Première salve de missiles lancée par Téhéran pour soutenir l'allié Hezbollah au Liban. Israël a immédiatement riposté malgré les appels à la retenue de Donald Trump aux États-Unis. Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran. Bonjour.
Bonjour.
Et ça ne s'arrête plus depuis, Siavosh.
Moins de 3 heures après la riposte israélienne, concentrée sur les bases militaires, mais aussi une installation pétrochimique dans le sud de l'Iran, mais aussi des frappes contre Téhéran, Karaj, Ispahan, Tabriz ou encore Kermanshah. L'Iran a mené une riposte très vaste contre le centre et le sud d'Israël, mais également contre des installations militaires autour de Naplouse et également des maisons de colons israéliens qui ont été visées, visiblement, selon Téhéran. L'Iran ensuite a lancé donc une vaste opération contre 2 bases aériennes, les bases de Nuatim et Tel Nov, où il y a la plupart des avions F-35 israéliens ou des avions américains qui sont stationnés sur ces 2 bases. Donc une attaque d'envergure de la part de Téhéran en coordination avec les Houthis au Yémen et également avec le Hezbollah au Liban.
Siavosh Ghazi, depuis Téhéran, l'Iran frappe Israël pour défendre le Hezbollah sur le front libanais. Le cessez-le-feu n'y a jamais été que théorique. Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth. Hier, pilonne toujours le sud du pays et tire la grande ville côtière. Seul le petit quartier chrétien de la ville est jusqu'à présent épargné par les bombes, mais menacé par Israël, persuadé que des combattants du Hezbollah s'y cachent. C'est le reportage de notre envoyé spécial, Timur Özturk.
Torse nu, chalumeau à la main, Raymond prépare son narguilé sur le port de tir.
Guerre ou pas, moi je fume du narguilé ici tous les après-midi.
2 croix tatouées sur la peau, une autre en or. Autour du cou, ce pêcheur ne soutient pas la guerre du Hezbollah contre l'armée israélienne.
Bien sûr que personne n'est content de ça. On veut la paix que Jésus nous a promis.
Raymond assure qu'aucun milicien ne se cache dans son quartier.
Les gars du quartier surveillent les allées et venues la nuit.
L'armée libanaise s'est déployée dans les ruelles de ce petit quartier historique coincé entre les églises et la mer, où Khalil, 13 ans, se baigne malgré la guerre toute proche.
J'ai peur, mais je suis habitué. Quand il y a une grosse frappe, je quitte la plage et je rentre à la maison.
Avec son père Ibrahim, ils ont quitté leur quartier peuplé de familles musulmanes chiites.
Quand les bombardements ont commencé, on s'est réfugié dans le quartier chrétien parce qu'il est plus sûr.
Les déplacés ont planté leurs tentes dans les jardins, sur les plages, mais Ibrahim et sa famille sont eux hébergés par leur ami Walid, patron de l'hôtel du phare.
Moi j'ai reçu beaucoup de gens, des amis qui habitent dans le quartier musulman et qui habitent jusqu'à maintenant chez moi. On les reçoit comme des frères et on est une famille ici à Tir.
Au-dessus de sa terrasse, le bruit des avions de chasse israéliens rappelle que la guerre se poursuit à quelques pâtés de maison seulement.
Reportage Timour Özturk avec Benjamin Thuo et Charbel El Shérif. L'alerte au tsunami levée en Indonésie quelques heures après le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué le sud des Philippines. Séisme qui a fait au moins 8 morts.
La France n'est pas au rendez-vous de la transparence salariale.
Parce qu'elle a laissé passer le délai des 3 ans donné pour transposer la directive européenne dans le droit français. Hier était la date limite. L'objectif étant d'atteindre l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dans les entreprises privées publiques de 50 salariés et plus. Le ministre du Travail dit donc maintenant vouloir passer par une loi promise d'ici à la fin de l'année, mais cela crée beaucoup d'incertitudes dans les entreprises, Alexis Morel.
Calendrier incertain pour un texte loin d'être anodin qui obligera les entreprises à publier de nouveaux indicateurs sur les écarts de salaire hommes-femmes et à les corriger si nécessaire sous peine de sanctions. Chaque salarié pourra aussi connaître la rémunération moyenne de l'ensemble des collègues qui occupent un poste équivalent. Alors que les Françaises gagnent 14% de moins que les Français à temps de travail identique, il y a urgence, clament les représentants du personnel. Olivier Berducou, délégué CFDT chez Orange.
Il faut absolument que ce soit conclu sur 2026. Laissez passer le coche de 2026. C'est prendre le risque qu'en 2027, d'autres n'aillent pas jusqu'au bout.
Mais le patronat qui dénonce une usine à gaz compte bien profiter du report pour obtenir au moins des assouplissements. Olivier Schiller, du mouvement des entreprises de taille intermédiaire.
Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour interrompre cette folie bureaucratique qui va générer pour une entreprise d'un millier de salariés des coûts récurrents de 100 000 euros par an.
Et pourtant, certains services des ressources humaines se préparent déjà, constate Claire Letouzé, avocate en droit du travail.
Plutôt dans les grandes entreprises, des départements entiers qui ont planché sur les grilles de rémunération pour être capables de répondre aux questions. En revanche, dans les plus petites entreprises, sans doute qu'ils attendent d'avoir vraiment la loi qui va s'imposer à eux.
Loi qui prévoit toutefois des délais d'application différents selon la taille de l'entreprise.
Un traitement prometteur contre la sclérose en plaques vient d'obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour une mise sur le marché. Le tolébrutinib qui permet de réduire de près d'un tiers le risque de progression du handicap. Et voici un projet à très haute tension en Camargue. La ligne aérienne prévue entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, portée par RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité, fait face à une fronde tenace. Nouvelle manifestation aujourd'hui du collectif Stop THT. L'objectif de ce projet est de décarboner la zone industrielle de Fos-Étendeberre, l'une des plus polluantes du pays. Mais les opposants craignent pour la biodiversité, Clara Vincent.
À commencer par les espèces d'oiseaux qu'abrite ce parc naturel. Naturel régional de Camargue, explique Sébastien Mabille, avocat qui représente le collectif Stop THT.
La Camargue concentre 400 des 600 espèces d'oiseaux présentes sur le continent européen, c'est-à-dire les deux tiers, et constitue un couloir de migration majeur pour de très nombreuses espèces.
Or, les lignes à très haute tension menacent leur survie.
La littérature scientifique nous montre que pour un certain nombre d'espèces, principalement les grands oiseaux, du type flamant rose, grue cendrée, la première cause de mortalité non naturelle de ces espèces, ce sont les collisions avec les lignes très haute tension.
Pour éviter ce risque, les opposants plaident pour l'enfouissement de la ligne, mais en face, on assure avoir trouvé la solution. Christophe Bérassin de RTE.
On va disposer de balises innovantes que l'on met sur les câbles, qui permet aux oiseaux de mieux voir, notamment le jour et la nuit, la présence des lignes électriques et d'éviter le risque de collision.
Il soutient par ailleurs que la solution d'enfouissement n'est pas plus viable d'un point de vue environnemental.
Ça a une empreinte au sol qui est beaucoup plus importante en termes d'artificialisation des sols, parce que quand on parle d'enfouissement, en fait, c'est plusieurs enfouissements qu'il faut conduire. Ça représente plus de 36 hectares d'artificialisation.
RTE assure enfin que l'enfouissement coûterait 10 fois plus cher à la collectivité. Un chiffre surévalué selon les opposants.
Explication signée Clara Vincent.
Et pour la planète foot, ça se précise.
Le mondial démarre dans 3 jours maintenant, à cheval sur les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pas tout près. Gros budget pour les supporters qui ne veulent pas manquer le voyage. Tristan Barrault aux côtés de certains fans, prêts à décoller.
Il tiendra un mégaphone à la main dans les stades.
Vous êtes prêts, on peut en faire un chant. Les Français.
Valentin Vanelli, 30 ans, veste aux couleurs des bleus sur le dos et le capot, c'est-à-dire le meneur d'un groupe de supporters de l'équipe de France. Fonction qui lui a demandé de sacrifier plusieurs milliers d'euros de son épargne.
J'avais un PEL et du coup je l'ai cassé. Mais vu que j'ai pris mon appartement là début d'année et je me suis dit la Coupe du Monde c'est une fois dans sa vie.
Pour réduire les coûts, cet agent d'accueil dans les transports parisiens a réservé son billet d'avion avant de connaître les dates de match des Bleus. Et pour dormir, il qu'ils s'apprêtent à partager des chambres.
Bon, les hôtels, c'est 3 personnes et après les maisons, 6 ou 7.
Comme Valentin, Didier Baudry a obtenu des places à 52 euros par match grâce au club de supporters.
C'est très en hauteur quand même, donc on n'est pas bien, on n'est pas vraiment bien placé.
Il a assisté à toutes les Coupes du Monde avec l'équipe de France depuis 1986 et jamais ça ne lui a coûté aussi cher.
Clairement et nettement. On va pratiquement doubler les tarifs par rapport au Qatar. Je compte dans les 10 000, après j'espère moins, mais ça peut être plus. C'est le prix d'une voiture, quoi. Je garde ma voiture qui a je sais pas combien de kilomètres. C'est un peu un investissement, quoi. C'est un investissement qui rapporte pas, si, du plaisir, mais...
Investissement qu'il espère ne pas gâcher à l'arrivée aux États-Unis avec le passage à la frontière.
Apparemment, c'est un peu chaud, oui. Et quand ils nous poseront une question, faut toujours répondre non. Même si on comprend pas, c'est non.
Didier et Valentin sont optimistes. Ils ont tout pré-réservé jusqu'à la finale.
Et reportage Tristan Barreau, le dernier test des Bleus avant eux de monter dans l'avion. C'est le match de ce soir face à l'Irlande du Nord à partir de 21h10 à Lille, 4 jours après leur défaite face à la Côte d'Ivoire. Les sports, c'est aussi du hand. La victoire des joueuses de Metz en finale de la Ligue des Champions hier soir pour la première fois dans l'histoire du hand féminin face aux Hongroises de Győr, double tenante du titre. Et puis le tennis, victoire hier d'Alexander Zverev à Roland-Garros. Dernière étape de ce journal en Suisse pour la fascinante exposition de l'artiste Pierre Huyg, sculpteur et vidéaste. Il aime créer des situations, des ambiances. C'est ce qu'il fait dans cette exposition qui vient d'ouvrir à la Fondation Bayler à Bâle en Suisse et que Julien Baldacchino nous fait visiter.
Dans les expositions de Pierre Huyg, il y a ce qu'on voit et il y a tout le reste. Des installations imperceptibles si l'on n'y prête pas attention, mais qui pourtant transforment l'exposition en un espace habité, explique l'artiste.
On traverse des salles en apparence vide, mais dont les, par exemple, les couleurs du sol sont issues du voisinage. Elles sont habitées ou par des couleurs ou par des sons. Il y a des configurations qui ont des intensités plus grandes, mais celles qui apparaissent comme avec plus grande intensité n'ont pas plus d'importance que celles qui sont mineures.
Et les vidéos présentées explorent la frontière entre l'humain, l'animal et la machine jusqu'à créer un sentiment d'étrangeté selon la commissaire de l'expo, Mouna Mekwar.
Il y a une volonté d'essayer d'expliquer chacun des éléments et chaque sens, chaque explication nous échappe aussitôt. Ce sont des œuvres qui posent des questions et qui posent des questions. L'expérience physique, l'expérience visuelle, l'expérience sonore sont aussi importantes que la volonté d'expliquer.
L'espace est ainsi rythmé par la respiration d'un poumon artificiel, respiration que l'on sent vraiment lorsqu'on approche les murs des salles pour brouiller encore plus les pistes entre le réel et l'imaginaire.
Pierre Huyg, qu'on entend rarement à la radio, la dernière fois c'était il y a 15 ans. Vous retrouvez donc un entretien en longueur sur l'application de Radio France.
Merci Hélène Philly, voici la météo.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour avec CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert.
Céline Dacosta, après la parenthèse de calme d'hier, le temps se dégrade de nouveau ce lundi.
Oui, une perturbation à bord de la Bretagne ce matin avec des pluies parfois soutenues sur le quart nord-ouest ainsi que sur les régions les plus au nord. Dans son sillage, l'instabilité va également gagner du terrain plus au sud avec des orages dès ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine, puis vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, ça c'est pour cet après-midi. On parle d'orages localement forts avec sous les cellules les plus actives de bons cumuls de pluie en très peu de temps, de la grêle, des rafales de vent comprises entre 70 et 80 km à l'heure. L'accalmie sur ce secteur du centre-est, elle est prévue en fin de soirée. Près de la Méditerranée, le soleil va rester largement présent, mais des éclaircies, on en aura quand même au nord et au sud, même si les nuages vont rester également très présents avant l'arrivée des averses.
Et les températures?
Alors, ça reste juste par endroit ce matin, mais ça grimpe quand même un petit peu par rapport aux dernières matinées. 10 à 15 degrés en ce moment, jusqu'à 19 près de la Méditerranée, puis 16 à 22, ça c'est pour l'après-midi, sur le nord-ouest, vers la pointe nord, la région centre, le bassin parisien sous la perturbation. On aura aussi quelques valeurs semblables sur l'ouest comme à La Rochelle ou Biarritz avec 20 petits degrés. Partout ailleurs ça grimpe, 23 à 31. Les températures les plus élevées, on les retrouvera sur l'est, d'où l'instabilité orageuse.
Merci Céline Dacosta. Place à Géopolitique.
La grande matinale. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Ascu.
Bonjour Florence.
Vous revenez évidemment sur la reprise des hostilités entre Israël et l'Iran.
Ce qui s'est passé cette nuit avec des tirs de
missiles iraniens sur Israël, suivi de bombardements israéliens de l'Iran, rompant avec 2 mois de trêve, marque plusieurs ruptures. Avec une question majeure, est-ce la reprise de la guerre ou une manière de peser sur des négociations qui seraient sur le point d'aboutir? La première rupture notable est celle de l'Iran, qui a pris le risque d'attaquer directement Israël en raison d'une frappe israélienne, non pas sur son territoire, mais sur celui du Liban, la banlieue sud de Beyrouth pour être précis. L'Iran tient absolument à lier les dossiers iraniens et libanais, au risque de voir son territoire bombardé. Mais Téhéran joue son statut de puissance régionale et son influence au Liban, non pas seulement à travers le Hezbollah, mais directement. La seconde rupture est l'attitude du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a désobéi à Donald Trump en attaquant Beyrouth et de nouveau en ripostant contre l'Iran, alors que le président américain lui a publiquement demandé de ne pas le faire pour ne pas compromettre un accord avec l'Iran qu'il qualifie d'imminent.
Mais alors comment analyser ces ruptures ?
Alors elle montre, Florence, la complexité de l'échiquier régional recomposé après 2 ans et demi de guerre sur plusieurs fronts. Israël et l'Iran se livrent un combat que l'un et l'autre jugent existentiel, alors que les États-Unis embarqués dans cette guerre par l'hubris de Donald Trump cherchent à arrêter les frais par tous les moyens. La relation Trump-Netanyahou constitue l'élément le plus difficile à décrypter. Les deux hommes sont à la fois très proches, mais leurs intérêts immédiats sont divergents. La semaine dernière, Trump lui-même a fait fuiter une discussion orageuse avec le Premier ministre israélien, dans laquelle il l'a traité de complètement cinglé. Sans moi, lui a-t-il dit, tu serais en prison. Mais là où on pouvait penser que, en raison de la forte dépendance d'Israël vis-à-vis des États-Unis, Netanyahou n'irait pas à l'encontre de la volonté de Trump, il lui a quand même désobéi à 2 reprises, en bombardant Beyrouth et en ripostant aux tirs iraniens.
Mais quelles peuvent être les conséquences de ces transgressions ?
Alors, juste avant la riposte israélienne, Trump avait appelé le journaliste Barak Ravid, qui est son interlocuteur privilégié, avec un message clair. « Je vais appeler Bibi », le surnom de Netanyahou, pour lui dire de ne pas riposter. Chacun s'est amusé, Israël a bombardé, et l'Iran aussi, nous n'avons pas besoin d'un tir de plus. » Fin de citation. Et pourtant, Israël est passé outre. S'il fait perdre la face au président américain, Netanyahou pensait surtout à ses prochaines élections et la nécessité de ne pas apparaître comme vassalisé par Washington après s'être fait traiter de cinglé. Trump peut vivre avec cette transgression s'il parvient à conserver sa négociation sur les rails pour sortir du bourbier de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Mais pour cela, il devra céder sur le lien entre Iran et Liban, ce qu'Israël ou le gouvernement libanais ne veulent pas. C'est donc le moment décisif de cette sortie de crise à rebondissement. Reprise de la guerre ou négociation, les échanges de tirs de la nuit ne signifient pas nécessairement le pire, mais peut-être juste un baroud d'honneur avant la fin provisoire d'un épisode guerrier dans une longue histoire.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec le juge Édouard Durand.
France Inter, 10h. Ali Rebéi.
Ce lundi, dans Grand Main Vous Fasse, le sport fait-il vraiment maigrir ? Et si oui, quelles sont les activités idéales ? Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
Grand Bien Vous Fasse.
C'est tous les jours à 10h sur France Inter.
Penny Lane, l'outil compta facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Mais attention, dès le 1er septembre 2026, fini les factures papier ou envoyées avec outils non homologués. Toutes les entreprises devront passer à la facture électronique. Heureusement, avec Penny Lane, vous êtes déjà prêt pour la réforme de la facturation électronique. Découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable, Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
8h22.
France Inter, Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. La grande matinale.
Quand la colère s'ajoute à la tragédie, c'est une faillite, un échec, une honte nationale. Rarement des mots aussi forts auront été prononcés après un crime. Celui de Liana, 11 ans, retrouvée morte la semaine dernière dans le Gers. Colère devant le profil du suspect interpellé, un homme déjà mis en cause pour viol. Et voilà la justice au banc des accusés avec des enquêtes administratives, des procureurs généraux convoqués ce matin par Gérald Darmanin et sommés de reprendre les 70 000 plaintes qui touchent les enfants d'ici au 14 juillet. Pour en parler ce matin, notre invité est au cœur du sujet puisque c'est l'ancien président de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il est aussi magistrat, juge des enfants à Pontoise. Bonjour Édouard Durand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. J'invite les auditeurs à venir participer à ce grand entretien 01 45 24 7000 et l'appli Radio France pour vos questions et vos observations. Édouard Durand, on va bien sûr parler de cette affaire qui agit comme un nouvel électrochoc, mais dites-nous d'abord plus largement ce qu'elle révèle, selon vous, de la difficulté à entendre et à prévenir les violences faites aux enfants. On a toujours pas compris, ça n'est toujours pas considéré comme une urgence malgré les scandales de ces dernières années, malgré votre travail à la Civise.
En effet, cette affaire terrible montre que le déni reste extrêmement puissant dans la société et par cet effet dans le fonctionnement des institutions, quelles qu'elles soient, toutes les institutions. Qu'est-ce que c'est le déni ? Le déni, c'est ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ça n'est pas vrai, ça n'est pas grave, on ne peut rien faire, ça ne me regarde pas, on peut très bien s'en sortir. C'est la première chose que montre cette affaire épouvantable. Et puis la seconde chose que cette affaire montre, c'est que nous parlons d'une très grande criminalité. Les pédocriminels sont des tueurs avec une stratégie qui font un très grand nombre d'enfants victimes. Nous avons des données de la littérature scientifique qui montrent que un pédocriminel, dans sa carrière de pédocriminel, peut faire jusqu'à 150 enfants victimes. Ou bien jusqu'à commettre 2000 viols sur le même enfant.
En quittant la Civise en 2023, vous disiez la société doit renoncer à être spectatrice des violences sexuelles faites aux enfants. Depuis lors, on a l'impression que la parole se libère, qu'elle est entendue, mais qu'elle se heurte toujours aux difficultés de la machine judiciaire. C'est le signe de quoi ? Est-ce que la société change plus vite que les institutions ?
La parole des victimes, vous avez raison, Madame, se heurte au fonctionnement de l'institution judiciaire. Mais pas seulement. Elle se heurte au fonctionnement des institutions sociales, des institutions éducatives, des institutions de soins. Parce que le déni se montre dans le fonctionnement de toutes les institutions. Mais puisqu'il s'agit d'abord de grandes criminalités, eh bien ce déni se montre d'abord dans le fonctionnement de la police et de la justice. C'est vrai. Vous dites la parole se libère. La parole a toujours été énoncée. Le problème est qu'elle n'est pas entendue. Et le problème est que nous interposons toujours entre l'enfant victime et la protection des principes que nous interprétons mal et qui viennent faire écran à la protection.
Quel principe, Durand ?
Par exemple, je vous parle en tant que magistrat, les grands principes du droit. La présomption d'innocence, la présomption de l'égalité des délits et des peines, la présomption d'égalité, le principe d'égalité,
l'état de droit,
qui sont des principes fondamentaux, ouais. Dont je suis le gardien en tant que juge. Mais la présomption d'innocence n'a jamais été conçue par les humains pour créer un système d'impunité des agresseurs. On ne peut pas se cacher derrière ces principes, quels qu'ils soient, ils sont les mêmes dans la médecine ou dans le travail social à nouveau, pour dire « mais nous ne pouvons pas protéger ».
Mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce sont ces principes-là qui sont en quelque sorte des freins au bon recueil de la parole des victimes et de la parole notamment des enfants victimes de violences sexuelles ?
D'abord, oui, je pense vraiment. Et c'est ce que la conviction que je retire principalement du travail à la Civise. C'est ce que j'appelle les bonnes planques. Nous venons trouver des bons prétextes pour ne pas avoir à rendre compte du déficit de la protection. Comment expliquer que plus des deux tiers des plaintes aboutissent à un classement sans suite au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée ? Comment expliquer que les victimes de violences sexuelles dans l'enfance se heurtent leur vie durant à une errance médicale et à un défaut de soins spécialisés, ouais, du psychotrauma? Comment expliquer que les enfants victimes d'inceste ne puissent révéler les violences qu'une fois qu'ils sont protégés et pas avant pour bénéficier de la protection?
Mais Édouard Durand, on va parler tout ça et on va bien sûr rentrer dans le détail de ce qui est arrivé à la petite Liana, des leçons qu'il faut en tirer quant à la lutte contre les violences sexuelles, notamment sur les enfants. Mais comprenez que cette façon de mettre en opposition les défaillances systémiques de la justice et les grands principes qui font le droit, la présomption d'innocence, l'enquête à charge et à décharge. Vous comprenez que là, ça puisse interpeller ceux qui nous écoutent ce matin ?
Je le comprends et j'invite chacun à s'interroger à ce sujet. Il y a, en effet, puisque nous parlons de l'un des dénis les plus puissants, les plus anciens et les plus structurants dans le monde humain, le déni du viol des enfants. J'invite chacun à s'interroger sur la manière de respecter scrupuleusement tous nos principes fondamentaux, mais en les rendant compatibles avec la protection effective des enfants qui dénoncent des violences.
Alors, dans cette affaire Liana, le suspect avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2017 pour une relation qu'il entretenait avec une jeune fille de 17 ans. Il a ensuite été visé par une plainte en 2022 pour un viol sur une petite fille de 7 ans, classée sans suite, faute d'éléments probants. Il est visé par une nouvelle plainte en août 2025, la dernière pour de multiples viols sur une enfant de 11 ans. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Vous comprenez, j'imagine, la colère, l'incompréhension qu'on éprouve à cette multiplication, à cette répétition des plaintes. Qu'est-ce qui, en l'occurrence, n'a pas fonctionné ?
Alors, je...